C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, pour nos commissaires, premier enjeu de débat ce matin, on sait que la coroner, Jeanne Kamel, hier, en rendant sa décision, son constat, ses conclusions concernant la mort de Joyce Echaquan, a recommandé au gouvernement de reconnaître formellement le racisme systémique. Et là, il y en a plusieurs qui ont dit « Wow, c'est pas une coroner de faire ce type de recommandation. » Alors, est-ce qu'elle est allée trop loin en faisant même de cette recommandation la toute première de son rapport? C'est Luc qui commence.
Oui, moi, je trouve qu'elle a erré. Je trouve que son travail, c'est pas de sonner le tocsin, c'est de trouver des solutions. Elle en a trouvé plein de solutions, mais sa première solution n'en est pas une. Sauf que on comprend pourquoi elle l'a fait, et puis je m'explique. Donc, l'expression raciste systémique, c'est une expression qui est incompréhensible, qui veut dire une chose et son contraire. Tantôt, ça identifie la généralisation des comportements et des croyances racistes. Tantôt, ça identifie les résultats systématiques d'un système qui, à force de cumul de petites décisions, finit par classer tout le temps les mêmes individus dans les mêmes cases. Tantôt, ça identifie les discriminations des personnes face à un système, donc l'incapacité d'entrer même dans ce système-là, la marginalisation, etc. Mais l'expression, elle n'a pas à être précise. Elle ne vise pas à être précise. L'accusation de racisme systémique, c'est un cri de colère, c'est un cri de ralliement, c'est un leitmotiv. C'est un constat qui dit il y a rien qui va changer, puis que pendant des années, il y a eu une frustration, une révolte, puis il faut qu'on casse ça, et donc on y va avec un mot fort, un mot fleuve. C'est comme le paternalisme qui est utilisé par certaines féministes en disant on est dans une société paternaliste, on est dans une société machiste, on est dans une société qui est gouvernée par la culture du viol. Si tu vas à la recherche de la culture du viol avec une loupe dans le système, tu la trouveras jamais. Même chose quand les gens de droite, dès qu'ils sont mis devant la capacité de l'État d'exercer des contraintes, ils parlent d'un système socialiste ou d'un système communiste. Ben non, le système n'est pas socialiste, il n'est pas communiste, même si je t'impose une contrainte. Donc, ce sont des expressions leitmotiv. Dans le cas du racisme systémique, il y a autre chose. Il y a un cri du cœur. C'est que pour beaucoup de militants, on voudrait que l'admission soit faite une fois pour toutes et par tout le monde, sans s'accrocher les pieds d'un fleur du tapis, parce qu'on le sait tous que en nous, il y a une part de racisme contre laquelle il faut lutter par l'éducation, par le renseignement, parce qu'on sait aussi que il y a un système qui a ancré des personnes marginalisées dans les couches les plus basses de la société. En termes de recherche d'emploi, en termes de recherche de logement, en termes d'opportunités, de réseaux de contacts. Et ça peut plus durer. Alors, il y a un cri du cœur qui dit, ben, avouez-le donc une fois pour toutes, là, que c'est donc difficile pour ces personnes-là. Et mettons-nous au diapason de ces personnes-là, avouons qu'il y a du racisme systémique, puis partons de là. Mais ça, moi, je le fais, là, je suis tout à fait d'accord avec ce cri du cœur-là. Mais moi, je ne suis pas le premier ministre qui reçoit un rapport de coroner. Je suis un citoyen chroniqueur. Le ministre, lui, il faut qu'il regarde d'autres choses dans le rapport de coroner que ce cri du cœur-là.
Nathalie.
Moi, Luc, là, je suis totalement opposée à ton affirmation qui dit que la coroner a erré. Évitons de faire le procès de la coroner. J'avoue que avant même de lire le rapport, parce que j'ai lu le rapport de 28 pages, je me suis dit effectivement la tentation est grande de conclure qu'elle a fait de la politique en utilisant le concept de racisme systémique pour sa première recommandation. Racisme systémique, c'est devenu un concept qui polarise, c'est un concept toxique pour les uns, salutaire pour les autres. C'est comme si notre salut national passait par la reconnaissance du racisme systémique. La coroner, on la sent totalement engagée, révoltée lorsqu'on lit le rapport. Elle dit même à la page 19 de son rapport qu'il est de son devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter qu'un membre de la communauté autochtone ou de toute autre origine reçoive des soins tels que ceux offerts à Mme Echaquan. J'espère que ce rapport, puis je pense qu'il y a ça aussi dans ce rapport, elle a voulu faire de ce rapport un rapport choc pour qu'il y ait un avant Joyce Echaquan et un après Joyce Echaquan. Peut-être qu'elle aurait pu utiliser une autre expression que racisme systémique, par exemple d'inviter le gouvernement à reconnaître de la discrimination systémique, ou carrément, si elle avait joué de façon plus positive, elle aurait pu dire « j'incite fortement le gouvernement à adopter le principe de Joyce pour éviter effectivement dans le futur que des membres de communautés autochtones ou les Inuits se sentent exclus vue du système de santé. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement ne va pas dans cette direction. Mais il y a une admission dans le rapport de la part du ministère de la Santé, parce que ce qu'on apprend, c'est qu'ils vont investir 15 millions de dollars d'ici 2025 pour introduire ce qu'on appelle le concept de sécurisation culturelle dans le réseau de la santé, avec de la formation continue, entre autres, avec toutes sortes de mécanismes pour s'assurer que les membres des communautés autochtones soient à l'aise lorsqu'ils reçoivent des soins de santé. Marqué pour les communautés autochtones, mais ça vaut aussi pour toute autre personne issue de minorités. On veut éviter qu'elles soient discriminées sur la base de la couleur de leur peau, de leur langue, de leur religion, etc. Alors, ce rapport, moi, je l'ai trouvé absolument triste, mais en même temps choquant, révoltant. C'est assez évident, là, c'est très, très clairement documenté. Joyce Echaquan est décédée parce qu'elle a été victime de discrimination, de racisme. Elle est morte d'un œdème pulmonaire. On a mal fait le diagnostic. On a pris pour acquis qu'elle souffrait de dépendance.
Mais Nathalie,
on a pensé qu'elle était en sevrage. Alors, tu sais, je me disais,
Nathalie,
qu'elle pense... C'est le, excuse-moi, Luc, en terminant, juste deux secondes. C'est pas la coroner qui a erré, Luc, dans ce rapport-là. C'est le personnel de la santé qui a été... Non seulement disgracieux, mais c'est totalement... Ça dépasse l'entendement, la violence avec laquelle on l'a traité.
OK, Nathalie. Moi, je dis pas que le rapport est mauvais. Je dis qu'elle a erré en mettant
entendu.
Le racisme systémique comme une première... la cause de la mort de Mme Echaquan et la première recommandation. Le rapport est excellent. Le rapport, il fait une analyse détaillée des problèmes qui ont entraîné les bris de fonctionnement. Dans le détail, elle fait vraiment le travail de coroner qu'on lui a demandé de faire. Et elle arrive... Le détail là est très, très, très éclairant. Un, les soins ont été donnés par une infirmière en formation qui n'avait aucune expérience, qui n'aurait pas dû jouer le rôle d'infirmière pivot. Deux, cette personne-là était débordée, manquait de connaissances, elle a demandé de l'aide et elle n'en a pas reçu. Trois, il n'y avait pas de médecin disponible. L'infirmière, elle a demandé à de nombreuses reprises. Elle ne savait pas quoi faire. On lui a dit « Organise-toi tout seul ». Finalement, le médecin a fini par donner son diagnostic à distance, sans voir la malade. Trois, le médicament est administré, mais compte tenu de la condition cardiaque de la patiente, ce médicament n'aurait pas dû être administré à une personne couchée. Donc, le rapport est excellent. Mais Madame Kemmel dit c'est ça qui a entraîné la mort. Elle le décrit précisément. C'est ça qui a entraîné la mort.
Nathalie.
Tout cela ne révèle pas du racisme. Ça relève de la désorganisation, du manque de ressources, de l'impossibilité de suivre des règles de base dans des circonstances. Et à la question que Mme Kemmel pose, est-ce que ça se serait produit si la patiente avait été blanche? La réponse est un immense oui. Partout au Québec, aux quatre coins de la province, il y a un mépris des personnes qui sont en douleur et en détresse quand les gens sont tellement débordés, tellement épuisés, tellement à bout de ressources qu'ils n'arrivent plus à écouter, qu'ils n'arrivent plus à se pencher sur les besoins. Alors après ça, il y a la dimension raciste.
Mais attendez deux secondes. Puis Nathalie, là, je pose aux deux la même question. Est-ce que tu me dis, dans le fond, que Mme Echaquan ou Mme Tremblay, dans le contexte où c'est arrivé, aurait subi le même traitement?
Non. Moi, je dis que non. Ben, Luc, tu sembles dire oui. En fait, elle dit deux choses, la coroner. Elle dit oui, il y avait une désorganisation. Tu l'as bien dit, Luc, tu as bien résumé le rapport. Ça, c'est important. Mais ce qu'elle dit aussi, puis je la cite toujours à la page 19, les conclusions de cette enquête indiquent que Mme Echaquan a bel et bien été ostracisée, que son décès est directement relié aux soins obtenus lors de son hospitalisation en septembre 2020, que sa mort aurait pu être évitée. Elle retient aussi, parce qu'elle a rencontré 44 témoins, elle retient aussi le témoignage de Viviane Michel, présidente des femmes autochtones du Québec, qui effectivement dit qu'elle a reçu des piètres soins à cause de préjugés racistes et misogynes. Donc, c'est un mélange des deux, Luc, tu comprends, qui fait en sorte que cette femme-là n'aurait pas dû mourir. C'est terrible. Écoute, tu parlais, là, t'as bien fait la description, elle a été mise sous contention, les bras, les jambes, alors que l'hôpital n'avait aucune procédure pour la mettre sous contention. Puis le pire, c'est que ça lui a causé des problèmes respiratoires. Elle avait besoin de s'asseoir pour éviter qu'elle soit prise avec des problèmes respiratoires trop importants. Mais on a fait exactement le contraire. Luc, t'en parles, t'es aussi émotif que moi parce que tu lis ça, mais tu dis, mais ça ne se peut pas. On peut pas se tromper à ce point-là. C'est de la négligence. La preuve, c'est que la famille va poursuivre au civil, l'hôpital, mais également les médecins concernés.
Luc, enfin, je te demande de clarifier parce que je vais être bien sûr que les auteurs ont compris ta position.
OK, bon. Les infirmières ont fait preuve de racisme. C'est pas à cause du système. C'est pas à cause que le système est raciste. Elles ont fait preuve d'un de préjugés ignorants, insensibles, méprisantes. Elles ont prononcé des phrases qui sont même pas répétables et qui sont font preuve d'une immense insensibilité. Mais c'est pas ça qui a tué Mme Échaquan. Ce qui a tué Mme Échaquan, c'est un système qui est systématiquement à court de ressources et systématiquement désorganisé. C'est ça. Il y en a un problème systémique, là. C'est la désorganisation du système et le manque de ressources.
On s'arrête là-dessus. On veut faire le deuxième sujet. Ben oui, c'est sûr. Au retour, élection Montréal. Qui sont les candidats les plus branchés sur ce qui intéresse vraiment les Montréalais, leurs besoins?
La commission Normando-Ferrandaise.
À presque, quoi, un mois du scrutin, on voit que la campagne électorale à Montréal et dans les autres villes, mais on va parler de Montréal ce matin, commence à prendre un rythme de croisière intéressant. Alors, trois candidats se dégagent d'après les sondages. La question pour les commissaires ce matin, lequel des candidats semble le plus branché sur les besoins, les préoccupations des Montréalais? Nathalie.
Tu vois, c'est la question 100$ ce matin, tout d'abord. C'est vraiment pas évident à répondre. Et moi, en fait, j'ai retenu la candidature, les candidatures de Denis Coderre et de Valérie Plante. Et pour procéder et tenter de répondre à ta question, Paul, j'ai fait une relecture du sondage publié en mars dernier, Somme 98.5. Il y avait une question auprès des pour les Montréalais sur lesquels de ces facteurs sont les plus importants pour vous. Alors, si on regarde le sentiment de sécurité, circulation, état des routes, propreté de la ville, avantage, Denis Coderre. Transport en commun, la vie de quartier, les pistes cyclables, avantage Valérie Plante. Si on met maintenant, on regarde par ordre priorité ces facteurs d'importance pour les Montréalais, je dois dire qu'en mars, j'aurais tenté de dire en fait que Denis Coderre semblait être le candidat le plus proche des priorités des Montréalais. Par contre, aujourd'hui, plusieurs mois après ce sondage, j'avoue que la réponse est moins claire. Pourquoi? Parce que à tous les jours, les candidats font des annonces. Par exemple, lorsque Valérie Plante et son équipe confirment ou prennent l'engagement de la gratuité du transport en commun dès 2023 pour les personnes âgées, ça, c'est drôlement concret et ça fait une différence dans la vie. Ça peut faire une différence dans la vie des gens. Lorsqu'elle annonce, par exemple, une plus grande accessibilité des berges, ça aussi, c'est très concret. Même chose pour Denis Coderre. Denis Coderre, d'ailleurs, Luc, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, mon Dieu, Luc a une influence sur Denis Coderre. Il veut apprendre aux Montréalais à faire du vélo. Et là, je rêve du jour où tu vas être en tandem avec Denis Coderre dans les rues de Montréal sur votre vélo commun. Non, mais blague à part, on se rend compte finalement que de part et d'autre, on sent, oui, une volonté d'avoir des propositions concrètes. Par contre, lorsque j'entends une Valérie Plante nous annoncer la création d'un genre de conseil de la langue française, puis elle veut confier un poste à Louise Arel pour veiller à la bonne santé de la langue française. Là, tu sais, moi, honnêtement, là, ça m'interpelle pas pantoute. Puis là, je me dis, non, ça non plus, elle va pas gagner son élection avec ça. Là, ça, c'est une autre structure. C'est de l'argent public dépensé inutilement. Non pas que la défense de la langue française, c'est pas une priorité. Au contraire, c'est une priorité. Mais à un moment donné, arrêtons d'annoncer la création de structures une par-dessus l'autre. Alors, je sais pas si ma réponse est claire, Paul, mais mettons que c'est plus clair en mars, c'est les moins aujourd'hui. Okay. Je trouve qu'il y a des avantages de part et d'autre.
Luc? Bon, les priorités des Montréalais, telles qu'exprimées dans le sondage dont tu parles, c'est pas tout à fait les mêmes priorités qu'on entend au jour le jour, à radio, à télévision, sous le coup de la frustration. Tu sais, au jour le jour, on entend beaucoup parler de la congestion, on entend parler des taxes, etc. Dans les priorités des Montréalais, la première en haut de la liste, c'est le logement, la deuxième, la sécurité, la troisième, la relance du centre-ville. Le logement, je pense, c'est loin, loin, loin devant. Sont classés en ordre 1, 2, 3, 4, 5, là, mais ça devrait être 1, 13, 14, 15, en fait, parce que les 12 premiers, c'est le logement. Sur le logement, Plante est en avance, mais Coderre est en rattrapage. Moi, j'entends Coderre dire qu'il fallait faire un registre des baux.
Ouais.
Peux-tu dire que je suis tombé à terre, la face la première, sans me protéger? Parce que j'avais plus conscience. Parce que,
aïe.
Écoute, j'ai été en face de ce gars-là au conseil pendant des années. Il y a rien qui déteste plus au monde là, qui ignorait plus au monde, qui a une indifférence, une sorte de ben oui, parler, mais c'est juste pour une petite partie de la population. Et maintenant qu'il adopte ça, même chose pour Madame Plante sur la sécurité. Coderre, lui, la sécurité, il y a ça. Le logement, là, elle a ça dans son ADN. Là, elle, premier jour, elle parlait de logement quand elle est arrivée en poste. Coderre, dans son ADN, c'est la sécurité. Il a toujours parlé de sécurité. C'est quelque chose qui l'anime énormément. Mais dans là, c'est Plante qui pédale, puis qui rétro-pédale à toute vitesse, puis qui là dit, au lendemain de l'embauche de Will Prosper, on va engager beaucoup plus de ressources dans la police. On a un plan, puis le voici. Et c'est ça la caractéristique de ces deux candidats-là, c'est qu'ils sont prêts, à faire beaucoup de concessions en fonction sur leur ADN initial, en fonction des demandes, pression de la population ou de ce qui est en cours. Je pense, par exemple, que la mobilité, Coderre s'en est toujours... c'est jamais très, beaucoup intéressé à la mobilité, mais là, il est arrivé avec un plan de mobilité très axé sur les transports en commun. La taxation, Plante, c'était pas arrivé avec une conscience importante de la taxation, mais là, elle a fait une année complète de gel des taxes, par exemple. Déneigement, Plante et Coderre, je les mets égaux les deux, parce que les deux ont adopté une politique très, très systématique du déneigement, que moi, j'aime pas du tout, mais ils ont adopté ça, les deux. Fait qu'ils sont capables, je trouve, de s'adapter. Moi, je trouve que les défauts sont ailleurs.
Sont où?
Oui.
Ben, les défauts, non, c'est mais... ce qui n'est pas dit. Oui. Les défauts, c'est oui. dans ce qui n'est pas dit. Premièrement, je vais commencer avec le défaut de Mme Plante. Mme Plante nous cache le fait que la plupart de ses promesses ne sont possibles que si les budgets augmentent.
Et
si
nous les budgets cache. Augmentent... Et c'est anti-parlementaire, ça, M. Ferrandez. Nous cache, la VRS qui cache.
Ah, ben, en campagne, mettons, en campagne. La mairesse a des talents. Oublie de nous dire que c'est des promesses qui vont se réaliser dans le très long terme, à la fois pour le logement, les grands parcs, etc. Tandis que M. Coderre, lui, il nous cache des intentions. Attends, il nous cache pas. Il omet de nous dire. Il passe sous silence le fait que plusieurs de ses intentions affirmées haut et fort pourraient avoir des conséquences. Et par exemple, il veut centraliser les permis au centre-ville. La centralisation des permis au centre-ville, ça veut dire que toi, tu n'as plus rien à dire comme citoyen sur ce qui se passe dans ton voisinage, l'ouverture d'un bar. Par exemple, il voulait faire ça notamment pour ouvrir les bars toute la nuit ou l'ouverture d'un commerce, des permissions données à des terrasses. Donc là, tout ça est centralisé au centre-ville. C'est lui qui prend les décisions. Et ça peut avoir des conséquences énormes sur le quotidien des citoyens.
Ouais. Mais moi, je résumerais ça de façon assez simple. Là. Mm-hmm. Denis mange dans le buffet de Valérie. Valérie mange dans le buffet de Denis. Et puis, en bout de ligne, là, finalement, là, je pense que cette campagne-là va se jouer sur les personnalités davantage que sur les idées. Je crois que j'ai dit ça il y a quelques mois, mais je continue de le dire parce que on en a fait l'illustration ce matin. Lorsque Denis Coderre affirme qu'il veut redonner le goût aux Montréalais de faire du vélo, il est sur le terrain de Valérie Plante. Lorsque Valérie Plante annonce 110 millions, ou je ne sais trop, je me souviens plus trop du chiffre, mais je pense que c'était ça, pour améliorer la sécurité, pour lutter contre le trafic d'armes à feu, ben elle est sur le terrain au l'ADN de l'équipe de Denis Coderre. Alors, tu sais, c'est comme des vases communicants. Alors, en bout de ligne, je crois que les Montréalais, dans le bureau de vote, hein, lorsqu'ils vont être confrontés à « je mets mon X ou », je pense que ce qui va beaucoup compter au-delà des idées, c'est est-ce que Valérie Plante, on a encore le goût qu'elle soit notre mairesse ou encore est-ce que Denis Coderre incarne le changement dont on a besoin pour notre métropole? Je pense qu'en bout de ligne, la personnalité va jouer énormément dans ces... Je ne sais pas si c'est d'accord, Luc,
totalement,
avec mon...
Totalement, totalement. Je suis entièrement d'accord. Et... la question est de savoir, en campagne, c'est facile d'adopter un message qui n'est pas tout à fait le tien, qui n'est pas ton ADN, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu vas être capable de faire preuve d'initiative, de spontanéité, de rapidité, de vigilance, par exemple, sur le verdissement, sur les grands parcs, sur la défense du patrimoine? Pour Coderre, je pense que ça, c'est pas des choses dans lesquelles il est hyper... Lui, ce qu'il veut, c'est de faire de Montréal une ville internationale. Et il va falloir surveiller... et donc, si on veut avoir ça, si on va avoir une ville internationale qui a des relations importantes avec les autres villes du monde, mais qui est branchée sur le fédéral, branchée sur le provincial... qui construit son centre-ville, qui le rend prestigieux, ben je pense qu'il faut plus aller vers Coderre. Si on veut avoir une ville qui est plus vie de quartier, verdissement, patrimoine, transport en commun, vélo, etc., je pense qu'il faut aller plus vers Plante.
Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, puis on vous retrouve demain.
C'est 23.